Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro, Maurice Bolduc à la technique. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc quoi, on va parler de plein air. Je suis content de te revoir le chroniqueur de plein air et du loisir, Stéphane Bourdi, qui va nous parler du musée canadien de l'histoire. Et en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Iterma. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Bon, elle le dira, c'est pour sa première solo, bien sûr, de la danse de son projet Pomegranate. Ça se passe à partir de demain. Voilà, je la reçois aujourd'hui à 17h30, deuxième partie d'émission. Tout de suite, on part à musique avec Christian Marc Gendron. Et le titre de la pièce, c'est Mode Avion.
Et le soleil qui me font du bien. Mettons-nous en mode avion, ne pensons plus à rien. Nos deux corps qui se réchauffent partout, on a des mains. Et si l'été avait des ailes sur notre chemin, il y avait du silence et du vent, et s'il n'y avait rien. J'adore ton souffle sur mon corps. Donne-moi tes lèvres, j'en peux encore. Dont j'ai besoin. Mettons nos pieds dans la mer, faisant comme des gamins. Viens nager dans l'eau profonde comme les Hawaïens. Agrippe une tortue géante, je suis le magicien. Tu peux nous arriver quand on est main dans la main. J'adore ton souffle sur mon corps. Donne-moi tes lèvres, j'en veux encore.
Nos destinées se sont liées sans qu'on ne s'aperçoive. Mon petit prince est assuré que ce fait n'est qu'apprivoise. On trompette en unissant soirée au festival de jazz. Sommet des dunes au Sahara, haut sur le mont tremblant. L'apogée de mes rêves et la magie de chaque moment. Paradis sur terre intemporel, on s'envole sous le ciel.
J'adore ton souffle sur mon corps. Donne-moi tes lèvres, j'en veux encore.
On chantera jusqu'à demain. Christian Marc Gendron, Mode d'avion. J'aimerais bien le voir en spectacle, lui. Voilà, comme je l'avais dit, ouais, en début d'émission, il est là. On va parler de. Avant de laisser le micro à Stéphane Baudry pour parler du musée canadien de l'histoire, un petit clin d'œil, une pensée. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre 2021, c'est la journée mondiale du sida. La journée mondiale de la lutte contre le sida. Voilà, donc une pensée à tous ceux qui ont perdu la vie. Voilà, ça fait, je ne sais pas si je me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, ça fait 40 ans que ce virus, d'ailleurs, a été découvert ici, en Amérique du Nord. Donc voilà, chaque 1er décembre de chaque année comme ça, pensez à toutes ces personnes qui vivent encore avec ce virus, avec cette maladie. Et heureusement qu'il y a eu un avancement Voilà, il y a eu une avancée d'ailleurs dans les recherches, dans les médicaments, même s'il n'y a pas eu de vaccin pour guérir définitivement. Mais il y a des méthodes, des combinaisons de produits qui permettent aux gens qui sont porteurs de ce virus d'avoir au moins une vie normale, comme tout le monde, voilà. En dehors que des médicaments qu'ils prennent, bon, sans compter les effets secondaires, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. 1er décembre de chaque année, c'est comme ça. C'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Voilà. Père aux âmes de ceux et celles qui sont partis. Ouais. À cause de ce maudit virus. Voilà. VIH. Bonjour, Stéphane Baudry.
Bonjour, Fulgence. Comment ça va?
Je vais bien, merci. Et toi?
Ça va très bien, merci.
Voilà. Alors, tu nous as choisi aujourd'hui le Musée canadien de l'histoire.
Oui.
Le musée canadien de l'histoire. Oh non, allez, vas-y, tu vas me remplir les oreilles aujourd'hui.
Et son histoire commence en fait en 1841. La reine Victoria a fait don de 1500 livres pour la création de la Commission géologique du Canada.
C'est pas notre siècle, hein?
Non, ça fait quand même un certain temps.
Et 1800! Ouais.
Mais cette commission-là, au début, était à Montréal. Puis elle avait établi un musée pour exposer au public les échantillons géologiques, archéologiques et biologiques qu'elle avait recueillis partout à travers le Canada pendant l'année précédente. Mais éventuellement, c'est devenu plus gros, il y a eu plus de mandats et tout, et elle a déménagé à Ottawa en 1881.
Oui.
Alors, ça a été comme victime de son succès aussi. Et c'est devenu tellement imposant les collections qu'éventuellement, ils ont fait plusieurs musées avec ça. Alors, ça a fait le musée de la guerre, le musée des sciences et de la technologie, tous des musées qu'on peut visiter maintenant aussi dans cette région-là.
Oui.
Mais en 1989, on a bâti le musée canadien des civilisations à Hull, qui maintenant, avec les fusions et tout, est devenu dans Gatineau.
Oui.
Mmh. Et qui, en 2013, a été rebaptisé le Musée canadien de l'histoire, parce que sa mission a changé un peu. Il voulait mettre plus l'accent sur l'histoire sociale et politique.
L'histoire sociale et politique.
Alors, on parle de conserver, présenter des objets matériels qui témoignent de l'histoire humaine du Canada et de la diversité de sa population. Parce que le Canada a une diversité de population immense, là.
Oui. Même Montréal, simplement quand on prend Montréal ou bien Toronto ou bien une ville comme Vancouver, les grandes métropoles. Hein, je ne parle pas des petites villes, les bleds là. Non. Les bleds sont beaucoup plus homogènes. C'est pas si diversifié quoi. Mais toutes les grandes villes du Canada sont comme ça, très 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 diversifiées.
Mais le Canada a été bâti par des gens qui sont venus de partout.
De partout. Alors, disons toute l'Amérique du Nord, voilà, un peu partout comme les États-Unis d'Amérique, quoi, comme on dit. Quoi, voilà.
Exactement. Alors, le musée, on parle de 25 000 mètres carrés d'aire d'exposition sur plusieurs étages. On parle de 20 000 ans d'histoire humaine. Il y a aussi...
20 000 ans d'histoire humaine.
Oui, ça va à la préhistoire.
Bon, ça veut dire que moi, j'ai raté quelque chose, quoi, parce que je ne suis pas encore allé...
Mais l'histoire du Canada a commencé bien avant que ça s'appelle Canada et que les Européens viennent ici.
Je comprends, j'ai raté quelque chose.
Alors, il y a même des objets vikings, il y a des objets de préhistoriques.
20 000 ans d'histoire humaine, non, j'ai raté quelque chose, il va falloir que je passe la visite. Là. Merci Stéphane d'en parler, allez je te laisse continuer.
Alors il y a un cinéma aussi de 295 places avec un écran 3D et un dôme géant, un petit peu à l'histoire des autres cinémas qui permettent d'avoir des vues en 360.
On ne passe pas des films standards classiques qu'on trouve dans les salles de cinéma, on va en parler, c'est des films d'histoire qui passent là-bas.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Voilà, parce que...
ça se trouve être au 100, la rue Laurier à Gatineau. Alors c'est bien, c'est pas très loin de l'eau.
C'est 1h30, 2h de route?
De Montréal, ça se fait quand même assez bien. C'est, moi je dirais, c'est ça, 2 heures maximum, là.
C'est comme si on allait à Ottawa.
Oui, mais comme si on allait à Laurentide aussi, dans certains cas.
Oui,
ça se fait quand même. Okay. Là, c'est collé sur Ottawa, là. Il y a seulement le petit pont entre les deux.
C'est le petit pont qui est là, voilà. C'est vrai.
C'est ça. Alors, c'est tout près du centre-ville d'Ottawa, tellement qu'on peut aller, on peut se rendre à pied à partir d'Ottawa. On traverse le pont, on arrive à Gatineau, au musée. C'est vraiment juste à côté. Il y a un stationnement intérieur, par contre. Et évidemment, il y a plein d'autobus, services d'autobus à partir d'Ottawa ou de Gatineau pour se rendre là.
OK.
Et l'été, il y a même l'aquataxi qu'on peut prendre pour aller...
C'est quoi ça, suivre le fleuve?
Ben, traverser le canal.
Le canal, oui. L'aquataxi.
L'aquataxi, oui.
OK. Des navettes, quoi.
Oui, c'est ça.
Des navettes fluviales, voilà. Ouais. Disons, des petits bateaux qui font la navette entre les deux villes, quoi.
Oui. Mm-hmm. C'est un musée qui m'a beaucoup surpris. Moi, je pensais, j'avais quoi, Alors que je suis arrivé, j'avais avant la fermeture, j'avais 2h30, 3h pour visiter.
Oui.
J'ai manqué de temps. J'ai vu seulement une partie de ce qu'il y avait à voir. Il faut vraiment prendre le temps.
Oui. Tu me fais penser quand j'étais allé au musée du Caire en Égypte, d'ailleurs, et c'est tellement grand que, en fin de compte, je me suis dit, il faut que je repasse. Je suis passé une deuxième fois, mais je n'ai pas tout vu encore. Quand tu tombes dans des grands musées comme ça, il faut te préparer toute la journée.
Oui, eux presque. Aussi, une immense histoire. Aussi.
Voilà, il y a l'histoire, parce qu'il y a des choses qui te fascinent, et puis tu restes scotché là, quoi. Tu restes là, tu regardes, et puis bon, le temps passe sans que tu te rendes compte. Allez, on y va?
Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Il y a la grande galerie. C'est la première chose qu'on peut voir au rez-de-chaussée. C'est grandiose, magnifique. On parle de 6 grandes façades de maisons autochtones qui longent la galerie. Il y a aussi des grands mâts totémiques. C'est immense. C'est comme une hauteur de 6 étages. Parce que aussi la grande galerie a des fenêtres de 6 étages d'où on peut voir la colline du Parlement. Mais sur l'autre mur, c'est vraiment des grands mâts totémiques. C'est de toute beauté. Puis derrière ces façades-là, il y a des expositions sur les premiers peuples. Il y a des expositions sur la préhistoire aussi. Alors, puis on se promène, il y a des masques, il y a des ensembles de danse, il y a plein d'objets, il y a même des embarcations.
Oui.
Ça, des instruments selon certains rituels.
Ce que les peuples autochtones utilisaient avant comme embarcation,
exactement,
pour se déplacer sur le fleuve ou bien sur la neige.
C'est impressionnant. Il y a des embarcations qui sont tellement longues, mais il faut vous dire que ces gens-là, ils naviguaient, ils transportaient, disons, les objets de commerce, comme les pots, les choses comme ça.
Oui.
Alors, c'était vraiment des grandes, grandes embarcations, là. Alors, c'est impressionnant de voir ça.
Oui. Moi, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça, sincèrement. Oui. Wow.
Puis ensuite, quand on arrive dans les étages supérieurs, là, c'est comme l'histoire du Canada qu'on peut voir. Elle est divisée comme en trois sections.
Là, tu parles du Canada
de
nouveau, là.
Oui, ça part de la préhistoire.
Oui.
Et vraiment, là, avant même là, que les colonies arrivent et tout, là, vraiment de la préhistoire. Et après ça, il y a une autre étape où c'est plus, on va plus parler, disons, de tout ce qui était l'invasion britannique. Ça veut dire, la première partie, ça va jusqu'avec la Nouvelle-France et tout aussi. Après ça, on arrive avec le Canada britannique.
Oui.
Et ensuite, plus tard, c'est le Canada contemporain, le Canada moderne, où là, on va parler, entre autres, des deux grandes guerres.
Ah, il y a de quoi pour les yeux, là-bas.
Ah oui, c'est plein, plein d'artefacts, là. C'est quand même immense, là.
Oui.
On parle de beaucoup de... Juste pour l'exposition des premiers peuples, on parle de 2000 artefacts. Images et documents. 2000 artefacts, images et documents historiques et contemporains. Alors, c'est quand même immense, là. Il y a une exposition de timbres aussi, du Canada, qui peuvent être très intéressants. Il y a une exposition à ce moment qui est temporaire, c'est sur le Blue Nose. Et c'est un peu toute l'histoire derrière ça. On sait que le Blue Nose, c'est un bateau, un voilier qui avait gagné beaucoup toutes les courses. Et il se retrouve sur nos dissous. Mais il y a toute une histoire derrière ce bateau.
Derrière ça, oui.
Exactement. Alors, c'est vraiment bien. La seule chose, c'est que c'est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 16h, sauf le jeudi où la fermeture est à 19h. Je trouve personnellement que les heures d'ouverture ne sont pas très grandes
pour
tout ce qu'il y a à voir. Là.
Oui.
On parle de avant-taxe, la tarification, c'est 20 $ pour les adultes, 18 $ pour les aînés, 15 $ pour les étudiants. Les jeunes de 8 à 12 ans, c'est 13 $. Les enfants de 2 à 7 ans, c'est 5 $.
Bon, pourquoi on ne fait pas ça gratuit pour les jeunes de 0, disons, d'un à... À 11 ans, quelque chose comme ça.
Oui, je trouve que c'est... D'habitude, c'est gratuit. Hein,
jusqu'à 17 ans, voilà. Jusqu'à 18 ans, c'est gratuit la plupart du temps.
Je comprends quand c'est... En temps normal, il y a le musée des enfants qui est là, qui est très, très interactif, et ça a l'air que les enfants s'amusent beaucoup.
Oui.
Mais malheureusement, en temps de restrictions sanitaires, vu qu'il y a beaucoup d'interactions, le musée des enfants est fermé.
Oui.
Alors, c'est sûr, il y a un tarif familial, c'est sûr, là. 6 personnes, 2 adultes maximum, c'est 50 $. On achète en ligne pour une heure d'arrivée déterminée, comme pour les parcs, les randonnées et tout.
Oui.
Alors ça, c'est assez standard.
Passeport vaccinal exigé et tout ça.
Oui, c'est ça. Comme je dis, prévoir facilement 4 heures minimum pour pouvoir bien explorer le musée. Surtout si on veut voir le film. Moi, je n'ai pas eu le temps de voir le film parce que justement, je voulais voir les expositions.
Oui, tu voulais voir les objets.
C'est ça. Oui.
Wow.
Mais c'est...
Pour conclure?
Alors, c'est le musée canadien de l'histoire et le musée canadien le plus fréquenté.
Au Canada?
Au Canada.
Oui. Pas au monde,
non,
au Canada.
Et aussi, vous pouvez avoir des expositions virtuelles en ligne, ainsi que la collection. Il y a une base de données de 218 000 artefacts qui sont disponibles. C'est disponible en ligne, vous pouvez aller voir. C'est www.
Moi, je veux me déplacer là.
Oui, mais je veux quand même avoir une idée un peu. C'est www.museedelhistoire.com. Tout en un mot.
En un seul mot, oui.
.ca.
Sans accent, sans machin.
Sans apostrophe, rien. Oui. Museedelhistoire.ca.
Ouais, 218 000 artefacts.
Ouais.
Ah, ouais. Ah, il faut avoir du temps pour le faire. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci.
On se revoit la semaine prochaine.
Oui.
Allez. Bye bye.
Bye.
C'était Davido et Focalistic, Champion Sound. Voilà. Là, je vais parler rapidement de la collecte de rue de la Guignolée des médias qui aura lieu demain, jeudi 2 décembre. Un réseau de 340 succursales Jean Coutu, 200 magasins Maxi et Provigo et 70 points de collecte dans la région de Montréal qui seront à la disposition de tout un chacun de nous. Voilà, pour recueillir vos dons, nos dons. Voilà. Donc, c'est la 21e édition à l'occasion de cette 21e édition. Voilà, va accepter jusqu'au 31 décembre la Guignolée des médias, bien sûr. Jusqu'au 31 décembre, les denrées non périssables, les dons en argent dans 340 succursales, comme je viens de les dire. Ouais. De Jean Coutu, 200 magasins de Maxi Provigo. Cela totalise à peu près 540 endroits près de chez vous. Ne dites pas, bon ben j'ai rien vu, c'est trop loin de chez moi, quelque part là. Je viens avec les angles de rue aussi, tout ça. Pour permettre de jeter quelques petites piécettes là, ouais, dans les petites boîtes là, ouais. Donc, mais c'est pas des paniers ou bien quoi, des petites boîtes. Voilà. Et puis s'ajoute à cela aussi 70 points de collecte dans la grande région montréalaise, île de Montréal, Laurentides, la vallée Longueuil et 200. Comment dirais-je ? Allez-y sur le site Guignolée. En un seul mot, guignolée.ca. Voilà, vous allez tout trouver là-bas. Voilà. Et puis, à Montréal, qu'est-ce qu'il faut ? À l'angle Montréal et du parc, de 6h à 10h. Oui. Et puis, angle de Lorimier, Ontario, de 6h à 10h aussi. Angle Sherbrooke, Est et Haïk, c'est de 6h à 10h. Et puis, angle Côte-des-Neiges et Dessels, de 6h à 10h. Angle Sherbrooke et Saint-Laurent, de 6h à 10h. 6h du matin, j'ai pas, c'est pas PM là, c'est AM, comme on dit là, c'est matin. Et puis angle Saint-Jean-Baptiste et Henri Bourassa de 6h à 10h, angle Sainte-Catherine et Saint-Laurent de 15h à 19h, centre Belle de 9h à 19h, oui, et puis centre Rockland de 6h à 10h, Grand Montréal, angle Tachereau et Auguste Greenfield Pal, Dixie 30, Brossard, Ikea Boucherville, Place Haut, Centropolis, Laval, angle Saint-Martin et de Beaulois. Allez-y celui-ci, vous allez voir tous ces endroits pour que si vous avez envie de faire un petit geste, voilà, faites la différence. C'est tout ce qu'on demande. On ne nous demande pas d'aller signer des gros chèques là-bas. Là. Le petit geste que vous allez faire, là, c'est ça qui compte. C'est le plus important. Voilà. Vous savez, la mission, c'est de prendre soin de la santé et du bien-être des gens qui, avec l'association La Guignolée des médias, et tout indiqué mentionne, comment dirais-je, de faire une différence concrète dans les milieux de vie où la bannière Jean Coutu et ses succursales affiliées sont présentes au cœur de leur façon de faire. Et comme c'est les commerces de proximité, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de magasins, la plupart des filiales de Jean Coutu sont impliquées et autres. On va en musique, on termine la première partie de l'émission, la première partie, Camel Fat avec Elderbrook, Cola, Simon Mills, Sugar.
Difference, yeah. ciel.
Comme ça, en beauté avec Camille Fat et Edelbrook, cool, c'est un remix et Sugar de Simon Mills. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on va recevoir notre invité, Eterma, voilà, pour son spectacle. C'est une chorégraphe interprète, hein, c'est pas une chanteuse. Hein. Pomegranate, ça commence demain. Voilà, on vous revient tout de suite, restez à l'écoute pour découvrir le parcours artistique de cette chorégraphe interprète.
Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Cause you've been around, babe, you've been around for a while. I'm trying to wake myself, cause I know that you're her, the girl with the freckled smile. I think I've loved you before, cause I don't second guess and I don't question it at all. I think I've loved you before, cause I don't care that I'm alone. Cause I know that you're her, the girl with the broken smile. I know I've loved you before, cause I don't second guess, I don't question it at all. I know I've loved you before, but I don't care.
Cause I'm head over heels.
The Devil Music Co, Head Over Heels. Voilà. Notre invité est déjà au bout du fil. C'est une personne que je vais beaucoup apprécier sans l'avoir. Elle est au bout du fil, n'est pas avec nous en studio parce que moi, la chorégraphie, l'interprète, la danse, tout ça, ça fait partie de mes tasses de thé ou bien de café, comme on peut le dire. Elle a été formée en arts martiaux, en danse moderne, en yoga et en ballet. Hitterman travaille dès le début des années 80 auprès de plusieurs chorégraphes québécois, interprètes, recherchés. Ouais, elle a côtoyé pas mal toutes ces grosses têtes aussi. Si je ne me trompe pas, elle va me corriger d'ailleurs, ça doit être sa première solo. Ça commence demain. Voilà, demain jeudi 2 décembre à 19h30 au mai. Ouais, soirée d'ouverture pour mes Grenades. Je ne sais pas si j'espère que je prononce bien aussi ce beau projet pour elle seule. Oui. Alors, bonjour Etemab, comment allez-vous?
Bonjour, je vais très très bien, très excité pour demain.
je peux m'imaginer, voilà, pour une première solo comme ça. Très... En dehors de ça, comment vous vous sentez? Enfin, je peux voler de mes propres ailes.
Pardon?
Enfin, vous dites, enfin, je peux voler de mes propres ailes.
J'ai pas compris.
Enfin, je peux voler de mes propres ailes.
Oui. Voler de mes propres ailes.
Oui, voler de vos propres ailes, c'est ce que je veux dire. Ouais, parce que c'est un spectacle solo, hein?
Oui, c'est ça. Alors, oui, c'est la première fois que j'ai chorégraphié un si grand solo de toute une qui dure presque une heure.
Oui.
Et puis c'est ça, c'est enfin ça va avoir lieu après la pandémie et tout ça. J'ai été annulée deux fois, presque une troisième fois parce que on avait espéré que ça ouvre, mais la troisième fois ça n'a pas marché non plus. Alors là c'est vraiment la troisième fois officielle. On va l'ouvrir. J'ai très hâte d'enfin livrer ça sur scène, le partager cette histoire, cette poème par le corps et par la transmission d'énergie.
Oui. 2, 3, 4 décembre. Waouh. Ben, moi je me dis simplement, mais pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps? Parce que ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu. Hein. Ça fait longtemps que vous dansez.
Oui. Et... En fait, en 87, ma carrière de danse, si je peux le dire comme ça, s'est lancée avec ma première petite solo, mais c'était un solo de 20 minutes.
Oui.
Alors, j'avais déjà fait, comme quand on est jeune, j'avais fait plusieurs projets avec des amis et tout ça.
Oui.
Mais j'ai jamais fait toute une soirée comme ça, j'ai jamais assumé ça. J'avais déjà fait une petite solo.
Oui.
Et après ça, j'avais déjà collaboré avec d'autres dans les créations, bien sûr. Mais très vite, je suis devenue interprète, qui est un rôle très, très important.
Oui.
Et je trouvais que vraiment, à cette époque-là, plusieurs années, les années 80, 90, j'ai dansé beaucoup pour les autres parce que ça m'a beaucoup passionnée de concentrer sur ce travail-là, d'interpréter, de comprendre l'univers de l'autre et de faire la transposition, puis tout digérer et le réinterpréter de ma manière. J'aimais beaucoup cette collaboration.
Ah, moi, d'accord, là, je comprends. Mais parce que quand je vois la liste de tous ceux ou bien celles avec qui vous avez travaillé, je me suis dit, pourquoi elle a attendu si longtemps? Est-ce que ça a été un manque de confiance ou bien pour un temps de oui, je n'ai pas le temps, je suis avec les autres, je ne peux pas créer quelque chose pour moi maintenant, ou bien c'est un mélange de tout ça?
Mais je pense que c'est comme toute passion, quand on est passionné de quelque chose, ça nous remplit. Alors quand j'étais interprète, je travaillais pour les autres, c'était vraiment quelque chose qui m'a comblée.
Ah, d'accord.
J'avais pas le besoin d'écrire, moi.
Oui, oui.
J'étais plus la plume.
Oui, d'accord.
Je laissais les autres me prendre, puis de là, mais je me sentais très créatrice quand je faisais ça. Alors, j'étais plutôt comme ça, puis là, depuis que je fais Pomegranate,
oui.
Je me rends compte la responsabilité qu'on a, c'est énorme, comme qu'on produit un spectacle nous-mêmes, qu'on prend en charge toutes les décisions.
Oui.
Alors, juste parce que c'est un solo aussi, oui, que j'ai chorégraphié, mais j'ai chorégraphié.
Faites attention au téléphone, ça craque un peu, s'il vous plaît.
Ah oui? Excusez-moi.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi. Mais Est-ce que c'est parce que je suis trop près du téléphone?
Non, allez-y, c'est mieux comme ça, je vous entends.
Alors, non, c'est ça, ça prend énormément d'autres énergies, concentration.
Oui.
Et alors, moi, j'ai chorégraphie, je suis interprète, mais j'ai fait la production aussi.
Oui, parce que là, c'est une autre paire de manches. Hein, quand on prend sa plume, quand on molde son projet à soi, et toutes les décisions sont prises par vous-même.
Oui.
Voilà.
C'est ça.
Toute l'équipe doit vous écouter.
Ça va des deux directions.
Ah, vous les écoutez aussi, mais c'est votre projet, c'est ce que je veux dire.
Oui, voilà.
En gros, c'est là. Alors, je me suis dit, mais non, ça, là, les absents auront tort, hein, parce que là, vraiment, j'ai vu quelques images de vous, là, je me suis dit, mais c'est une grande danseuse. Pourquoi elle a mis, c'est pourquoi j'ai posé la question, pourquoi vous avez mis assez de temps comme ça pour vous lancer seul dans le fleuve, ça, c'est dans le fleuve des danseurs et danseuses, quoi. Voilà.
Mais allez-y.
Qu'il
faut pas être gêné de le dire aussi, parce que je pense que peut-être on patine autour, c'est que mon âge,
oui.
C'est ça, j'ai 61 ans maintenant,
oui.
Et c'est plutôt rare, comme vous avez dit, de faire une première création solo. Bien sûr, j'ai dansé beaucoup,
oui.
J'ai fait beaucoup de choses, mais c'est rare qu'on lance quelque chose comme ça à cet âge-là.
Oui, je comprends.
Pour dire qu'on est danseur, on demeure toujours danseur,
oui.
On dirait.
Oui. Non, c'est quelque chose, c'est un art que moi j'apprécie beaucoup et j'adore. Disons, quand je vois un danseur ou bien une danseuse comme ça, je regarde, parce que la danse, d'abord, c'est la poésie du corps, hein, il faut le dire. Quand je vous regarde, vous et vos collègues danser, je dis waouh, les mouvements, le langage que le corps nous transmet, tout ça, et l'interprétation de ce que nous, en tant que spectateurs dans la salle, nous voyons. Et je me dis bravo. Et puis, bon, ben, avec le yoga que vous faites, ça vous permet de vous calmer après la danse encore plus.
Oui, ça aide énormément.
Oui, on va faire une petite pause musicale et puis on vous revient.
Oui, merci beaucoup.
Merci.
De jeûne, face au journal, gros titre jaune, petite gêne, c'est la simplicité que j'aime. Maintenant, même les pubs de divan sont extrêmes. On extrait le divin du vivant. Je devine que la mode est dérée, mais je suis croyant, pratiquant, modéré. À la paix, aucune entorse, je ne porte aucune bombe, ni bombe le torse. Quand on met mon Dieu à bas, que faut des bosses amorces. Fier et droit, à droit. J'éteins l'amorce, mais on me critique en masse.
J'ai un salaire dans la moyenne, donc peu de moyens. Toujours moyen de monnayer, à moins que j'ai plus que vous n'ayez. Noyé dans la routine, la roue tourne, les demandes de prêts qu'on me retourne. Je comprends peu leur grand vol politique et vos envols politiques. Moi, j'ai la face dans les couches et les factures en retard. Alors question rhétorique, ça vient tard, quand je me couche. Je fais ce que je peux, c'est souvent peu. Et on me critique en masse, mais c'est moi, la masse critique.
Je suis la voix du milieu, à mille lieues de l'élite. Je milite de mon mieux pour un monde meilleur. Je suis la voix du milieu, à mille lieues de l'élite. J'ai le monde où la modestie est d'ordre et les modestes me dorment. L'école, c'était long pour un manuel comme moi. Je levais le nez sur les manuels et je parlais parfois. Fallait que je me taise, me maîtrise. J'aspirais pas à la maîtrise. J'étais pas un génie, un peu gêné. Je voulais pas être ingénieur ou mathématicien. Maintenant mécanicien, je m'habille en Big Bill. Ça paie bien les billes. Je suis pour ma semaine dans le sud. Je sens qu'on critique en masse. Mais c'est moi, la masse critique. Je suis la voix du milieu, à mille lieues de l'élite. Je milite de mon mieux pour un monde meilleur. Je suis la voix du milieu, à mille lieues de l'élite.
J'ai une job plate comme ma poitrine, j'en fais pas un plat. Mon chum m'aide à faire le plein et des petits seins, ça lui plaît.
À l'usine où je bossais, mon boss qui a là-bas ses affaires a coupé mon chiffre pour augmenter son chiffre d'affaires.
J'ai peur que le monde me juge comme je juge le monde.
La pression du miroir, chaque matin.
Il m'attend, fond de teint sur le temps.
Je suis femme de ménage, célibataire.
Je suis homme à tout faire, mais je me ménage.
Je suis étouffé entre deux filières, fonctionnaire.
Je fonctionne plus, petite retraite de misère.
Je suis poissonnier, je suis cuisinier, pompiste, magasinier, secrétaire de sous-ministre. On est la force du nombre, citoyen de l'ombre. De l'autre côté de la télé, ce dont jamais on s'encombre. Mais le comble, c'est qu'on nous critique en masse, oubliant que c'est nous, la masse critique. Je suis la voix du milieu, la milieu de l'élite. Je milite de mon mieux pour un monde meilleur. Je suis la voix du milieu.
David Goudreau avec la complicité de Kim Kuyé et autres, la voix du milieu, David Goudreau, ouais, poète slammeur, bien connu au Québec ici, elle est au-delà des frontières bien sûr. Notre invitée est toujours avec nous, oui, elle, pour elle, la danse, c'est un art singulier qui transmet la vie et l'humanité, elle incarne en particulier l'expression de la libération kinésique de l'esprit. Ouais, explique-nous un peu ça.
Ça se dit toute seule, non?
Voilà. Quel est le sens de la danse pour vous?
Mais c'est parce que on peut voir la danse beaucoup comme quelque chose qui est purement physique, un athlétisme. C'est sûr que il faut se garder en forme, il faut avoir une certaine. Quand on est plus jeune, on travaille beaucoup sur la prouesse.
Oui.
Il y en a qui sont plus doués que d'autres, il y en a qui sont nés avec, il y en a qui travaillent très, très fort. Moi, j'ai toujours travaillé très, très fort pour atteindre un peu plus de contrôle.
Oui.
Et c'est le travail qu'on fait beaucoup pour être danseur et pour. Ça fait partie de le métier. Et puis. Pour pouvoir donner plus de choix dans la recherche d'une expression par le corps et surtout aussi pour être, si c'est un drôle de mot, mais comme l'outil des autres pour comme être malléable. Mais la partie artiste pour moi, c'est quand on a entraîné, on est en forme, ou même si on est un peu moins en forme, mais c'est que avec un geste, avec le sens du temps, avec la qualité du tension ou du détente, avec le rythme qu'on exécute quelque chose, avec le regard, avec toutes plusieurs choses, tout ça, ça fait l'art, le côté artistique,
oui,
du mouvement, mm-hmm, et de transmission d'un message.
Okay.
Comme quand on parle avec quelqu'un ou quand on regarde quelqu'un qui bouge, ou même si on peut penser aux animaux qui bougent avec une élégance, des fois, c'est tout naturel. Mais c'est ça que je veux dire. Et tout ça, c'est aussi l'énergie qu'on prend, c'est le kinétique.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui se fait sentir, qu'il faut dire qu'il est vraiment intéressant. Le 4 décembre, il y a deux représentations et à 2h l'après-midi, ils vont avoir des gens non-voyants qui vont être dans le public et ils vont participer avec c'est la deuxième fois au Canada, une audiodescription.
Wow.
C'est organisé par Densité et Montréal Art Interculturel.
Okay.
Il y a toute une équipe qui vont être backstage ici avec des caméras qui suivent le spectacle en direct.
Spécialement pour les non-voyants.
Oui, mais ils ont travaillé déjà beaucoup sur la chorégraphie avec moi.
Oui.
Mais pour dire, les gens, ils disent, mais c'est quoi de danser pour les non-voyants? Et je trouve ça fantastique.
Wow.
Parce que voilà, ça vraiment de voir. C'est sûr qu'ils vont suivre, ils vont sentir les vibrations.
Ils vont sentir les vibrations, ça c'est clair.
Ils vont sentir, ils vont comprendre la description, mais que je suis intéressée à voir après, c'est est-ce qu'ils sentent quelque chose qui se transmet comme des fois quand on est, je ne sais pas, on peut être dans un bus ou sur la rue, on regarde quelqu'un parce qu'on les trouve, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, mais on regarde, la personne est de dos, puis la personne tourne.
Oui.
Et souvent, c'est comme des choses senties. Et ça me fascine toujours.
Oui.
Je pense que c'est un peu ces messages-là que je veux dire par cette transmission et aussi c'est sûr que quand on est sur scène, et ben, dans la vie aussi, chaque individu porte une énergie, un esprit, un message, un regard qui est unique. Et quand on est sur scène, on essaie de transmettre quelque chose. On n'a pas de contrôle de tout, mais c'est là la vulnérabilité et c'est là qu'il faut être authentique.
Puis, voilà. Alors, Heather, on va parler un peu rapidement de l'inspiration que vous avez eue. Ça vient d'une histoire familiale. Hein. Vous vous êtes inspiré d'une histoire familiale. Celle de votre grand-mère qui est née en Chine à la fin du 19e siècle et amenée au Canada à l'âge de 15 ans.
Oui.
Elle est devenue femme, elle s'est mariée en tant que seconde épouse. Puis après le décès de son mari, elle retourne en Chine juste avant que la seconde guerre sino-japonaise éclate en 1937. Donc l'œuvre dessine un peu en délicatesse le parcours imaginé de cette femme qui, cherchant à fuir son pays natal en plein conflit.
Oui,
c'est ce que vous, alors, c'est ce que vous allez nous faire vivre dans ce projet pomegranate.
Pour que il faut dire le pomegranate en français c'est pomme granate, je crois.
Oui.
Avec toutes les petites toutes les graines à l'intérieur très serrées, difficiles à enlever.
Ah, pomme granate, oui.
Oui, alors. J'ai pris ça parce que c'est aussi symbolique
oui.
de, dans différentes mythologies, la souffrance et aussi la capacité de dépasser la souffrance et monter vers les plus grandes choses, et, mais aussi de voyager entre les deux.
Oui.
En chinois, ça veut dire aussi la fertilité, l'abondance.
Ah, pomme granate, OK.
Voilà la symbolisme. Et puis, qu'est-ce qui est important, c'est que quand j'ai commencé cette recherche, je savais très, très peu de choses sur ma grand-mère parce que mon père, il a vécu la guerre. Eux, ils ont vécu la guerre. Comme j'ai dit, ma grand-mère était la deuxième femme en chinois. C'est très commun à cette époque-là.
Oui,
ça s'appelle
oui.
la concubine. Alors, ça ne veut pas dire la première femme est divorcée. Ça veut dire
non,
qu'il y avait deux femmes
comme dans beaucoup famille. Comme dans beaucoup de cultures, d'ailleurs.
Voilà, ici, on le connaît moins. Je faisais attention, comment je le dis, parce que faut pas porter de jugement. C'était la culture à cette époque.
Oui, oui, oui. Oui.
Par contre, il y a toute une hiérarchie et j'ai appris plus. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrances que mon père m'a jamais parlé.
Mm-hmm.
Et je dois dire que j'ai su, mon père est décédé maintenant aussi.
Paix à son âme.
Mais... dernièrement, j'ai su un peu plus sur l'histoire. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai su l'histoire qu'elle a retourné en Chine une fois que mon grand-père est mort? Elle a devenu... C'est sûr que quand elle devient la deuxième femme et le père est mort, elle perd un peu plus de pouvoir ou autonomie. Ou c'est ça que j'ai compris. Alors, j'ai construit la pièce en imaginant les souffrances, les joies de vivre au Canada, de perdre le Canada, de retourner dans le village aux
oui,
Chinois
oui, oui.
avec les Japonais.
Faites-nous le résumé pour les 30 dernières secondes qui nous restent là. Oui.
Oui. Résumé de la pièce?
Oui. Un petit dernier mot concernant d'abord le premier spectacle demain. Un petit résumé rapidement. On est déjà à la fin de l'entrevue.
Oui. Alors, comme c'est vraiment une pièce qui va explorer. C'est comme un voyage.
Oui.
Vous allez voyager. Ça commence avec une introduction et après pour vous amener dans quelque chose qui est une exploration, un voyage, un joie et qui montre aussi plusieurs émotions qui sont humaines, que tout le monde vit par des souffrances d'être réfugié, d'être immigrant juste d'être humain. Oui.
Oh, d'être humain et d'être ailleurs, d'aller vivre ailleurs.
Oui,
d'être à l'étranger quelque part.
Oui.
Et se retrouver chez soi et ne pas se retrouver chez soi en même temps. Parce qu'on te verra toujours comme l'étranger, quoi.
Oui, on peut dire aussi, oui.
Merci beaucoup, Itema.
Merci.
Et bon début, bon premier spectacle. Et tout le long, là, c'est le 2, le 3, le 4. Mais là, c'est situé au 3680 rue Jeanne Mance. Merci beaucoup et au plaisir de vous réentendre pour un autre projet.
Merci.
Avec plaisir. Merci avec plaisir. Bon spectacle.
Merci.
Au revoir.
You must believe.
Oui, on termine en beauté comme ça avec cette pièce musicale. Et puis bon, ben, je dis merci à Stéphane Baudry qui est venu nous parler du musée d'histoire du Canada. Et puis à notre invité qui est venu nous parler de sa première solo d'ailleurs, Etema, pour son programme, pour sa pièce Pomme Crudata. Merci à toi Maurice, merci à vous chers auditeurs et auditrices de votre fidélité. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Je vous dis ciao. You must believe me. Ooh, yeah. Can't you see?
What you've done for me.